Chapitre 4 – Larmes de sang sur le dernier tournoi royal. Gabriel Delorge, comte de Montgomery, s'est tôt levé ce jeudi 30 juin 1559. Il faut dire que c'est jour de fête et que le jeune homme, il est âgé de 29 ans, est au nombre des chevaliers qui, dès 9 heures du matin, devront jouter contre de prestigieux tenants, le dauphin, le prince de Ferrare, les ducs de Nemours, de Lorraine et de Guise, ainsi que le roi lui-même, Henri II. Gabriel est lieutenant des 100 archers de la garde écossaise. Entièrement dévoué à son roi, il a eu récemment l'occasion de témoigner de son obéissance. C'est lui qui, à l'issue d'une séance houleuse au Parlement de Paris, a eu l'honneur redoutable d'arrêter en pleine cour le conseiller Anne Dubourg, un calviniste notoire. Le lieutenant n'a pas scié, même s'il nourrissait déjà en son fort intérieur un penchant naissant pour la réforme. La lice du grand tournoi est édifiée en plein marais, le long de l'hôtel royal des Tournelles, où réside la cour. Montgomery s'y rend donc sans peine. La rue Saint-Antoine, vaste et aérée, a été dépavée, jonchée de sable entre la rue Saint-Paul et l'entrée de la Bastille, et fichée de tentures, d'estrades luxueuses, ainsi que de brillantes tribunes. On a même, comme 10 ans plus tôt lors de l'entrée du nouveau roi dans Paris, le 16 juin 1549, édifié un arc de triomphe du côté de la forteresse. Partout flamboient les armes d'Espagne et de Savoie mêlées à celles de France. Et pour cause, ces réjouissances sont données à l'occasion de 2 mariages princiers. Oui, Henri unit et sa fille Élisabeth au roi d'Espagne, Philippe II, et sa sœur Marguerite au duc de Savoie, Emmanuel Philibert. Le premier de ces mariages a déjà eu lieu par procuration, l'envoyé du souverain castillan ayant glissé dans un lit de parade, sa jambe dénudée le long de celle de la jeune épouse. Étrange coutume à l'issue de laquelle l'union a pu être réputée consommée. Faut-il le préciser, comme souvent ces 2 mariages d'État scellent un acte politique, en l'occurrence le traité du Cateau-Cambrésis du 3 avril 1559, sinistre conséquence de la défaite française de Saint-Quentin 2 ans plus tôt. Cet accord désastreux prive le royaume de la Savoie, du Piémont, du Charolais, de la Bresse et du Bugey. Il met un terme définitif aux ambitions italiennes de la maison de France. C'est peu dire dès lors que le peuple soupire et maugré. La couronne est plus impopulaire que jamais. Et s'y couvait une révolte sur fond de défis à l'autorité royale et d'intenses crises religieuses. Chaque fois qu'il subit mauvaise fortune, Henri II tente à se réfugier dans ses rêves de chevalerie, anachroniques sans doute, mais qui depuis l'enfance peuplent son imaginaire. Les Parisiens chicanent, alors pourquoi ne pas leur offrir un beau tournoi? C'est ainsi que le 22 mai, il a cru bon de lancer à tout venant un cartel de défis pour inciter les jeunes à vertu. Au fond, le roi sent qu'il vieillit. Peut-être se dit-il que ce grand tournoi sera pour lui le dernier, une occasion suprême de prouver à la cour et à la ville, aux dames d'abord, ensuite aux jeunes seigneurs de France et d'ailleurs, que sa robuste prestance n'est nullement entamée par les difficultés de l'heure. La chaleur écrasante qui, vers midi, s'abat sur la lice des Tournelles rend cependant le spectacle poussif. Gabriel de Montgomery s'est efforcé, parmi d'autres, de rompre des lances au sein d'une poussière aveuglante. La chanson de Montgomery, écrite plus tard, vantera les qualités du jeune chevalier. « Adroit de corps et membres, bien joué je savouais, de lances et longs bouets, piques et hallebardes, aux joutes et tournouées, l'on me donnait pour chouer capitaine des gardes. » Sa superbe monture et les plumes pourpres généreuses au cimier de son casque complètent le tableau et lui valent la faveur des tribunes. De tous les jeunes assaillants qui, sous le soleil de plomb, viennent défier les tenants du tournoi, sans conteste, Gabriel est le plus hardi, le plus habile. Sous le grand dais royal ont pris place notamment la reine Catherine et sa belle-fille, la jeune et arrogante Marie Stuart, par ailleurs reine d'Écosse. Les toisant muettement l'une et l'autre, se remarque aussi bien la duchesse de Valentinois, favorite du roi, que nous avons pris l'habitude d'appeler Diane de Poitiers. Toujours en deuil de son défunt mari, elle arbore une tenue faussement simple, blanche et noire, et fait tout pour ne point paraître ses 60 ans. La reine, qui est sa cousine et lui doit beaucoup, la tolère à grand-peine, mais au vrai, en cette brûlante après-midi d'été, Catherine a d'autres préoccupations. Ses mages, ses astrologues, toute cette cour occulte dont elle s'entoure et se nourrit, n'ont cessé de prédire qu'il arriverait malheur à son époux à l'occasion d'un tournoi. Aussi la malheureuse se fait-elle bien du souci pour Henri. À ses yeux, les joutes en cour relèvent du supplice. Mais quelle chaleur, grand Dieu! Allons qu'on en finisse et que s'achèvent ces assauts d'un autre âge. Si seulement le roi pouvait passer son tour. Le voici justement, ce roi vieillissant, amoureux de la lys. Il porte beau, malgré tout, dans son armure dorée et ses atours de sable et d'argent, autrement dit, le noir et le blanc, les couleurs de Diane. Déjà, l'on s'active à lui mettre l'armée en tête. Son premier assaillant est le duc de Savoie, son futur beau-frère. D'un peu loin, Henri l'apostrophe. « Serrez bien les genoux, lui lance-t-il en riant, car je vous veux bien ébranler sans respect de l'alliance ni de la fraternité. » Les deux jouteurs, aidés par des écuyers, se hissent déjà sur leur lourde monture. Les trompettes sonnent haut et clair, et c'est bientôt l'assaut fougueux. Martèlement des sabots, choc des lances qui se brisent sur les écus, sa voix vacille, il manque de tomber et doit, pour demeurer en selle, se cramponner sans grâce à l'arçon. Henri l'a emporté, logiquement, royalement. Dans les tribunes, Diane, toujours hiératique, a daigné applaudir. La reine, quant à elle, rouvre les yeux. Elle soupire et s'évante, mais enfin, quelle chaleur! Catherine aimerait tant que son royal époux ait la sagesse de ne pas insister. A-t-elle compris que dans l'esprit d'Henri, ce tournoi est sans doute le dernier auquel il prendra part? Pourrait-elle admettre que pour lui, le plaisir de jouter encore l'emporte sur tous les oracles, sur toutes les prophéties de malheur? Il n'empêche, la torpeur qui règne aux tournelles et la touffeur ambiante sous le soleil ardent contribuent à déplacer subtilement les repères. Bien des spectateurs ont le sentiment d'être entrés dans une sorte de rêve, et l'enchaînement funeste qui doit conduire au pire est désormais enclenché. Le roi joue à présent contre le duc de Guise, un géant. Le choc est brutal, davantage peut-être que le précédent, mais cette fois il n'y aura pas de vainqueur, admettons. Le roi, avisant le duc de Savoie, installé à présent au bord de la tribune, le remercie de la monture qu'il lui a prêtée et qui se révèle, dit-il, d'une joyeuse ardeur. Sait-il seulement que le cheval en question porte le nom de Malheureux ? Savoie se déclare bien aise et profite de l'occasion pour dissuader le souverain d'entreprendre une troisième joute. Peine perdue. Henri ne saurait sortir de lice sur un semi-échec. Il lui faut absolument une victoire éclatante, bien nette, et qui permette au roi de France de quitter le tournoi, de quitter les tournois par la grande porte. C'est sans doute la raison pour laquelle il va jeter son dévolu sur un jeune venant des plus hardis, des plus habiles. Henri II désigne le capitaine de sa garde écossaise, ce jeune comte de Montgomery que la foule a paru soutenir tantôt. Comment Gabriel reçoit-il le choix du roi? Personne ne saurait le dire assurément, mais il est probable que, passé la fierté d'avoir été désigné, le chevalier mesure sa responsabilité. Est-il vrai d'ailleurs que son propre père, Jacques de Lorge, aurait été ce courtisan inconscient qui, lors d'une bataille de boules de neige à Romorantin, en janvier 1521, était allé jusqu'à jeter sur François Ier, père du roi Henri, un tison ardent qui avait bien failli le tuer, c'est en tout cas ce que prétend la légende. Si cette légende disait vrai, il serait difficile de croire que Gabriel, au moment de jouter, n'ait pas saisi l'ironie de la situation. Le son strident des trompettes retentit, les chevaliers poussent leurs montures, les lances se rompent et volent en éclats. Gabriel a menacé le roi qui, tout le monde l'a bien vu, a branlé sur sa selle et quasi quitté ses étriers. Henri est vexé, et c'est probablement cette petite blessure d'amour-propre qui va faire basculer l'histoire. Le roi, en effet, exige de rompre une seconde lance avec le sieur de Lorge. Le public, harassé de chaleur, soupire. La reine envoie un messager à son mari, le suppliant de n'en rien faire. Même les juges d'armes estiment une seconde lance contraire aux usages. Le monarque insiste. Gabriel essaie de lui faire entendre raison, de même que le messager de Catherine, en vain. Pour l'amour de la reine, lance Henri, foi de gentilhomme, je courrai cette lance, sans plus. Sire, insiste le maréchal de Vieilleville, juge d'armes, je jure le Dieu vivant qu'il y a plus de 3 jours que je ne fais que songer qu'il doit arriver quelque malheur aujourd'hui et que ce dernier jour vous est fatal. » Le roi s'impatiente et au lieu de s'adresser au grand écuyer, monsieur de Boissy, demande à ce maréchal, dont ce n'est en rien l'office, de lui remettre son casque. Vieilleville s'exécute la mort dans l'âme et referme tant bien que mal, assez mal à la vérité, l'armée du roi qui, sans plus attendre, se saisit d'une lance neuve. En face, Montgomery n'a pas eu le temps d'en faire autant. Voyant le roi s'élancer de nouveau, sans même avoir attendu les signes et la sonnerie, le jeune homme pique des deux. Silence de mort sur le champ clos. Seulement le bruit sourd des deux courses. Gabriel n'a pas vu, sans doute, qu'il ne tient plus qu'un morceau de lance brisé, tronçon dangereux qui, lors du choc, va riper sur l'armure du roi et le frapper à la tête, frapper au travers de la visière mal fermée de l'armée de Sa Majesté. Jamais plus on ne verra de tournoi royal en France, car le roi est touché. Le roi est blessé. Les tribunes se sont levées d'un mouvement dans un cri étouffé. Henri s'est effondré sur l'encolure de son cheval, le plumet blanc et noir oscillant de sinistre manière. Parvenu au bout de la lice, il se laisse glisser entre les bras des écuyers tétanisés et de quelques seigneurs qui ont accouru livides. Avec 1000 précautions, l'on finit par ôter le casque et c'est un flot de sang qui défigure le roi. Une malédiction planerait-elle sur la maison de l'Orge ? Gabriel a sauté de cheval et couru en armure vers sa victime involontaire. A-t-il, comme le prétendra Brantôme, obtenu tout de suite le pardon du roi, qui aurait dit que ce n'était rien et pardonné audit comte de Montgomery ? Cela paraît prématuré, mais il est probable qu'il a fait partie des seigneurs affairés à porter le blessé à demi-conscient jusqu'à sa chambre, en l'hôtel voisin des Tournelles. La déchirure faciale est terrible. Le tronçon de lance a heurté le crâne juste au-dessus du sourcil droit. Il a glissé sur l'os et ouvert la paupière supérieure droite pour entrer dans l'orbite par la partie externe et ressortir au niveau de l'oreille. 5 longs éclats de bois sont restés fichés à l'intérieur de l'affreuse plaie. Le plus grand mesure 9 de nos centimètres. Les chirurgiens tenteront bien de les extraire, mais sans beaucoup de succès. Même le grand Ambroise Paré, aussitôt mandé par le premier médecin, va se refuser à rééditer sur le souverain la violente opération qui, jadis, à la tenaille, avait sauvé François de Guise. Il demandera bientôt qu'on décapite des condamnés du Châtelet pour étudier posément sur ces têtes encore fraîches un moyen d'intervenir en vain. Même le plus grand praticien du temps, l'anatomiste Vézal, finira par accourir de Bruxelles à la demande du duc de Savoie. Mais le cas du roi est désespéré. Personne, à cette époque, ne pourrait prétendre le sauver. Au milieu des pleurs de sa famille et des gémissements de la cour, le monarque déclinant paraît étrangement serein. 10 jours durant, il rassure les uns, réconforte les autres. Il prie, il part au plus pressé, on le voit même prendre le soin de rasséréner notre pauvre Montgomery, anéanti par l'horreur de son crime. « Ne vous souciez pas, articule Henri II, vous n'avez pas besoin de pardon, ayant obéi à votre roi et fait acte de bon chevalier et vaillant homme d'armes. » Des termes qui, en plein XVIe siècle, semblent tout droit sortis d'un roman courtois du XIIIe. Dans l'entourage du souverain agonisant, l'on se montre moins magnanime cependant, et le jeune coupable de régicide involontaire comprend qu'il lui faut, s'il veut sauver sa vie, quitter la cour et s'enfuir au galop vers ses terres normandes de Ducet près du Mont-Saint-Michel. « Il faut à tout prix le faire venir, insiste le roi mourant. Qu'a-t-il à craindre ? Les jours passent et la plaie s'infecte. Le roi n'en a pas moins donné l'ordre de procéder au mariage en suspens, celui du duc de Savoie avec Marguerite de Valois. On obéit. De mauvaise grâce, le cortège nuptial, selon Vieilleville, ressemblait mieux à un convoi mortuaire et funérailles qu'à autre chose, car au lieu de hautbois et violons, ce n'était que pleurs, sanglots, tristesse et regrets, et pour mieux représenter un enterrement, ils s'épousèrent un peu après minuit, en l'église Saint-Paul, avec torches et flambeaux. Ce même matin, 10 juillet, à 9 heures, l'agonisant reçoit les derniers sacrements. Il bénit son successeur, le dauphin François, qui malade ne régnera pas 2 ans. « Que mon peuple persiste et demeure en la foi », murmure le roi finissant, qui, profitant d'une légère rémission, n'a rien trouvé de plus pressé que de dicter une missive à destination du pape, rassurant la curie romaine sur la punition des hérétiques en France. Les guerres de religion sont tout près d'éclore. Henri II passe de vie à trépas vers 13 heures. Et Montgomery, sitôt après la mort d'Henri II, le conseil l'a cassé de son grade de lieutenant des Cent-Archers et banni, prélude à une punition bien plus lourde et qu'il aurait encouru certainement s'il n'avait fait le choix de se faire oublier en Italie puis en Angleterre. Quand il rentrera des années plus tard, celui qui tua à Jouté le roi Henri sera devenu le bras armé de la Réforme, un jour général des Huguenots. Catherine de Médicis ayant pu le faire saisir à Domfront en 1574, elle aura la triste satisfaction de voir décapiter en place de Grève celui qui par accident avait tué son cher époux. Par accident, des mots que la rancœur ne pouvait entendre, au risque de l'injustice. Gabriel de Lorge en a beaucoup souffert, jusqu'à revendiquer cet acte qu'il n'avait pas voulu. De retour en France, en 1562, il arborait sur son nouveau blason un heaume percé d'une lance.